Musique de Pierre Guyotat, deuxième émission.
Comment depuis l'enfance, depuis la toute petite enfance, j'ai découvert la musique et comment je continue de la découvrir. Soit des choses que je n'ai jamais encore entendues, soit des choses que je continue d'entendre et donc de découvrir. Parce que chaque fois qu'on entend une œuvre, on découvre quelque chose. Pour chaque œuvre, il y a eu effectivement une... Pas une préparation, mais... Il y a eu des musiques en quelque sorte correspondantes. Je vais expliquer comment, du reste, comment... jusqu'à une certaine œuvre, jusqu'à une certaine étape de l'œuvre, je pouvais écrire, taper, enfin écrire, avec de la musique. Non pas en fond sonore, pas du tout, mais en simulant, disons. Ou en... comment dirais-je, en... comme cocon protecteur, si je puis dire, pour faire les choses que je fais. Parce que c'est souvent assez dangereux, donc pour la raison et pour bien d'autres choses. Donc la musique permet d'envelopper et aussi surtout de stimuler et d'enthousiasmer. Mais plus le texte est devenu... Au fur et à mesure que je sortais la littérature pour entrer dans l'écriture, puis de l'écriture dans la langue, puis de la langue dans le verbe, la musique était absolument inutile, et non seulement inutile, mais elle était absolument contradictoire. C'est-à-dire que c'était une musique qui en tamponnait une autre, en quelque sorte. Voilà. La mienne, quoi. Voilà. Donc c'était absolument... C'était inécoutable. Ce qui n'empêche que je puisse l'entendre mentalement. Hein. J'ai toujours, même enfant, j'ai toujours mentalement, suivi les musiques. Il y en a certaines que je connais par cœur, et donc que je me joue intérieurement. Quoi. Avec un petit mouvement de la bouche, je ne sais quoi, c'est tout. Il faut qu'il y ait quand on... C'est une écoute mentale, il faut un acte, un petit acte organique, enfin, bouche, dents ou éventuellement le bras, la main, quoi. J'ai commencé très tôt à faire ça.
J'irais boule l'orbite empoussiérée, ta poitrine tremblée, le comptoir caisse, ta mâchoire hack, mes cheveux chauds. D'eau, l'or, bordel, banlieue, France, de hanchier, gâte et son un kilo chantant, quelques banquets célestes, qu'à ta face mâchurée, de chair en gras, le relent tueur en refoufile les salames dans sa taille, une mouchère satan rentrée s'assoupir dedans tes narines, père ses gardes, calilo, brûler ses restes vivants, dessus ses goulots éclatés, ma chérie, sa joue rose, l'oreiller brodé d'or, quelle poubelle fourchée mon aîné d'avant mes trois lits debout, feu, poussière, grincement de dents, glame, froissement de tous les seins, combien de litres de lait nous sommes.
Je me souviens très bien des musiques que j'écoutais quand j'ai écrit telle œuvre, par exemple. Pas tout de suite, mais vers la fin, pour me donner un peu de courage, vers la fin. Mais pour la fin, j'arrêtais tout. Les derniers jours, les dernières semaines, j'arrêtais tout. Mais ça, je m'en souviens. Ce sont donc des œuvres qui, pour moi, sont liées à l'œuvre que je faisais à l'époque, voilà. Mais qui, depuis, comme elles ont été réécoutées dans d'autres circonstances, voilà, qui, depuis, sont le signe d'autres événements, hein. Et puis aussi, parce qu'aussi, en fin de compte, c'est très important pour moi. Ça a toujours été très important d'être contemporain d'événements historiques, bien entendu. Comme je suis né en 40, j'en ai eu, je peux dire, à la pelle après, si je peux dire. Et donc, mais il y a eu des événements artistiques. Hein, la mort de telle ou telle œuvre, par exemple, qui a été créée pendant la guerre ou après la guerre. Ou la mort de Schoenberg, par exemple, en 1951, qui est mêlée dans ma mémoire à une chose bien précise que j'expliquerai tout à l'heure. Voilà, des choses, je suis très sensible au fait que j'ai pu vivre même enfant, alors que de très grands artistes vivaient à l'autre bout du monde, pour Schoenberg, par exemple, à Los Angeles. Et ça, j'ai commencé à être sensible à ça très, très vite. Parce que je disais, donc, étant né en 40, en janvier 40, je suis né dans un environnement... Je ne peux pas le faire. Il faut dire que la première musique, si je puis dire, hélas, le premier son public qu'on entendait à cette époque-là, c'était étant bébé puis enfant, c'était le son, tout simplement, de ce qui se passait. Le son de la guerre. Le son par la radio, par exemple. Vous imaginez, ce ne sont pas des sons agréables. Hein? Ben, c'est la voix d'Hitler, par exemple. La voix d'Hitler, la voix de Pétain. Voilà. La voix d'Hitler, ma mère ne la supportait, du reste comme peu la supporte. Ma mère ne la supportait pas, puisque j'ai expliqué souvent, du reste, que longtemps après la fin de la guerre. Une fois à la radio, comme ça, à la radio qu'il y avait à l'époque, hein, il n'y avait pas de Transculture, pas de Transinter, il y a eu une émission sans doute historique, et il y a eu quelques secondes de la voix d'Hitler, et ma mère s'est évanouie. Elle était debout, elle s'est évanouie, elle est tombée. Elle est restée une demi-heure sans connaissance. Il faut dire qu'il y avait des raisons, pour tout le monde, bien entendu. Mais principalement pour certains. Voilà. Donc, aussi, la musique, c'est ça aussi. Enfin, le son d'une vie, c'est ça aussi. Hein. Surtout ces voix terribles qui ne sont plus des voix humaines, qui sont des voix de... La voix d'Hitler, c'est vraiment une voix d'enfer. Quoi, vraiment. C'est l'enfer qui parle, vraiment. Avec toute la puissance et toute la cruauté et toute la douleur aussi, dans la voix, bien entendu. La douleur de l'enfer, du diable. Je ne peux pas dire comment j'ai entendu pour la première fois de la musique. Il y en avait très souvent chez moi, parce qu'il y avait un piano, et que mes sœurs étaient... sans être très musicienne. Non, parce que j'étais très jeune. Apprenais le piano. Et donc j'ai entendu tout ce que... assez tôt, tout ce que les petites filles pouvaient jouer, et les garçons aussi pouvaient jouer à cette époque-là. C'est-à-dire un petit peu de Scarlatti, un petit peu de Mozart, un petit peu de... comment on appelle ça, de Clementi, par exemple, Clementi, Curzo Clementi, de... voilà. Des petites choses faciles à jouer, un petit peu de Chopin aussi. Voilà. Mais ma mère était très musicienne, enfin très musicienne. Elle était... elle avait une très jolie voix, elle chantait très bien. Elle chantait très bien, elle jouait un peu du piano, oui, elle s'accompagnait quelquefois pour... chanter, comment dire, mais là il faut que je revienne un peu parce que ça va apparaître comme une sorte d'enfance princière, ce qui n'était pas du tout le cas. C'était donc dans un petit village de la moyenne montagne, là, entre Lyon et le Puy, près de la Haute-Loire, oui, c'était des régions très déshéritées du point de vue culturel, absolument rien, il n'y avait pas de... Il y avait un très mauvais orchestre à Lyon, pratiquement, je crois, pas d'orchestre à Saint-Étienne. Quant au Puy, n'en parlons pas. Il y avait, je pense, tout juste les orgues de la cathédrale et encore. Sinon, c'était l'harmonium, hein. L'harmonium dans les églises, dans les... Donc, il n'y avait rien. Et Lyon était loin pour l'époque, c'était 70 km, mais c'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui, etc. Donc, c'était vraiment... On était éloigné de toute source. Toute source culturelle, picturale, musicale, théâtrale. Le théâtre, c'était les représentations du patronage ou d'un organisme qui avait été fondé par le curé du village qui s'appelait l'Amical Jazz. C'était assez moderne, d'une certaine façon, juste après la guerre. Et c'était des spectacles édifiants, des spectacles sociaux, assez avancés. Sur le plan social, malgré tout, c'était édifiant, mais sans être tout rose, quoi. Sans être sulpicien. Donc voilà, il faut bien... Mais ma mère avait vécu très différemment avant. Elle était née, donc, comme tous ses frères et sœurs, nombreux frères et sœurs en Pologne, près de Cracovie, où mon grand-père, ou son père, était ingénieur des mines. Dans un bassin houillé qui existe toujours, tu vois, je crois, et qui a fortement contribué, non pas en tant que propriétaire, tout ça, mais en tant que directeur technique, parce qu'il était un excellent ingénieur dans ce domaine, hein, à l'époque où la France avait des ingénieurs vraiment remarquables, comme du reste aujourd'hui, qui allaient dans le monde entier, ceux qui ont fait Suez, tout ça, enfin bref, Panama, etc. Et donc, lui était là-bas. Donc ils ont eu une enfance assez large, hein. Ils revenaient tous les ans en France, passer leurs vacances, donc ils traversaient toute l'Europe, l'Europe de l'époque, c'est-à-dire avant la guerre de 14, ma mère est de 1907, donc toute l'Europe de l'Europe post-wagnérienne d'une certaine façon, hein. 1907-1914, l'Europe de toutes les grandes inventions artistique, hein. Et après la guerre, donc une Europe changée, qui transformait les frontières transformées, voilà, jusqu'en France. Donc ma mère a quelquefois entendu des concerts dans les villes où ils s'arrêtaient, parce qu'ils avaient des amis, ils s'arrêtaient à Budapest, à Prague, à Budapest et Prague, voilà. Et j'en reparlerai plus tard, parce qu'elle se souvenait d'une représentation de Petrushka, de Stravinsky. Et je pense avec peut-être pas les ballets russes à cette époque-là, peut-être, je pense que c'était encore les ballets russes peut-être à cette époque-là. Je ne sais pas, il faudrait regarder dans les livres. Elle se souvenait très bien, bien sûr, de Petrushka, qui lui rappelait en plus toute son enfance slave. Elle n'était pas slave, hein, mais là, elle parlait couramment le polonais, le russe, etc. Donc, elle était très, très liée à cette civilisation. tout en ayant horreur. Mais en même temps, elle l'aimait profondément, en même temps. C'est important, parce que la musique russe, la musique populaire polonaise aussi, important. Chopin joué par des Polonais. Ma mère me disait toujours que Chopin joué par n'importe quel Polonais, c'était toujours mieux que Chopin joué par le plus grand des pianistes du monde. C'est une chose que j'ai souvent entendue, c'est une de ses phrases favorites. Je ne sais pas, je n'ai pas pu vérifier après, mais je lui fais confiance. Donc elle avait... Mon grand-père n'était pas musicien, mais c'est elle vraiment qui a aimé la musique, elle toute seule. Voilà. Et donc, comme elle avait une jolie voix, donc on lui demandait de chanter, par exemple, dans des fêtes, par exemple. Et pas des choses idiotes, des choses, des airs d'opéra ou des... de l'époque, hein. C'était évidemment pas ni Wagner, ni... Mais elle chantait Schumann, par exemple. Elle le chantait. Elle chantait L'amour de la vie d'une femme, donc en français. Elle le chantait en français.
Elle évoque pour nous sa mère, son enfance et quelques-unes de ses compositions fétiches.
Musique de Pierre Guetta, troisième émission.
Quand elle s'est assurée que... Voilà. Évidemment, ça n'a pas duré parce qu'elle est morte un peu de temps après. Mais donc, par elle, j'ai beaucoup... D'abord, j'ai eu une image de ce qui se passait. Une idée de ce qui... Parce qu'elle me racontait beaucoup toute son enfance. Son enfance qui avait été brillante, hein. Mais elle avait connu mon père, donc. Et donc, mon père était médecin dans un endroit perdu, très, très difficile, très pauvre. Mon grand-père, son père, était déjà médecin là. C'était des médecins des pauvres, vraiment. Donc elle a malgré tout souffert de cet éloignement de tout lieu culturel, de tout lieu urbain. Et donc voilà, cette vision de Petrouchka à Budapest, je crois, ou tel autre concert à Paris, ou à Prague, ou même à Cracovie, ou, par exemple, je m'en souviens, parce qu'elle me les a décrits. Et puis de la musique qu'ils faisaient à l'intérieur des familles avec lesquelles ils avaient des liens là-bas, des liens sociaux, hein, qui étaient des gens musiciens, bien entendu, qui avaient les moyens, disons. Voilà. Mais c'est elle qui vraiment a inauguré dans notre lignée, parce que je parle de moi, mais en fait, tous mes frères et sœurs sont très sensibles à la musique. Un peu plus ou un peu moins chacun. Enfin, je ne suis pas une exception. Voilà. C'est elle qui nous a transmis ce qu'elle a elle-même appris elle-même. Par sa sensibilité, parce qu'elle lisait beaucoup et que dans les livres, il est tout de même fait question, il est tout de même souvent question de musique, dans les grands livres. Hein. De musique. Donc elle était curieuse à ce moment-là, elle demandait à écouter ou à l'entendre ou de. Là, elle voyait peut-être des musiciens ou des professeurs de piano là-bas, je ne sais pas. Je ne me souviens plus très bien. Mais il y a des choses que j'ai découvertes sans elle, parce que sa culture était très particulière. Elle était, je pense, une culture très spontanée. La culture de beaucoup de jeunes femmes de son... Peut-on dire quoi, de son milieu, je ne sais pas comment dire, et de cette époque, c'est-à-dire que c'était essentiellement le romantisme, hein, et le romantisme allemand. Hein. C'est-à-dire c'était Schumann, Schubert, Beethoven, bien sûr, Mozart, tout juste, Bach, parce que Bach est inévitable, mais au-delà, finalement, au-delà, la musique française, une ignorance complète, je pense quasi complète. Il faut dire que les Français eux-mêmes ne la connaissaient pas, leur propre musique, à l'époque. Et la musique qui aurait pu lui être un peu contemporaine de son enfance, comme celle de Debussy et Ravel, elle la connaissait peu, mais elle n'aimait pas. parce que c'est une musique qui établit une rupture complète avec le, avec l'élan, disons, avec le... D'abord, techniquement, c'est une révolution complète, Debussy, bien entendu, mais en même temps, c'est un changement par rapport à la musique allemande. C'est un changement, disons, pour être rapide, pour être simple, c'est un changement de sentiment. Les sentiments qu'on sent, qu'on croit que le musicien a ressenti pour faire sa musique, ne sont pas du tout les mêmes en Allemagne et en France. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en France, c'était déjà très ancien aussi. Cette différence de comment dirais-je, d'entité, enfin, disons, d'origine de l'inspiration, comment peut-on dire, vous voyez, la musique française, la musique du 16e, la musique baroque, la musique du 19e et évidemment la musique du 20e, française est très différente de la musique allemande, c'est une tradition tout à fait autre. La tradition allemande, c'est une tradition religieuse, donc avec une religiosité du sentiment aussi, de la nature, et évidemment de Dieu, de la foi, bien entendu, qui n'existe pas dans la musique française. Puisque si la nature existe, la nature ou le cosmos existe dans la musique française, c'est pas sous forme d'émotion religieuse, vous voyez, c'est sous forme de transcription, comme dans Debussy, par exemple. Transcription de la matière, c'est une autre démarche, voilà. Et donc elle était, elle, beaucoup plus proche de la musique allemande et de la musique slave. Voilà. Alors, par exemple, elle me parlait beaucoup, parce que c'était aussi beaucoup lié à sa vie, les choses de musique. Et par exemple, la 9e symphonie était liée à son frère, son plus jeune frère, qu'elle avait élevé, étant l'aîné de 9 enfants, et ma grand-mère étant morte très jeune. Donc c'est ma mère qui a élevé tous ses frères et sœurs. Et le dernier de ses frères, qui est mort à 23 ans, était un peu comme son fils, donc comme notre frère aîné, en quelque sorte. Et ils avaient tous les deux, peut-être avec mon grand-père, assisté à avant la guerre. Avant la guerre, en 36 peut-être, à un concert du football. Peut-être à l'opéra, peut-être. Et il y avait donc cette 9e symphonie, et pour eux, c'était un sommet, bien entendu. Donc chez ma mère, il y avait cet amour de la musique allemande, et en même temps, comme beaucoup de sa génération et de celle de son père, une crainte terrible de la politique allemande, de l'histoire allemande, mais un amour de la culture allemande très grand, sauf Wagner. Wagner était absolument banni. Wagner, ça faisait peur. À ma mère, c'est une musique qui lui faisait peur. Elle n'avait pourtant pas été du tout, elle n'avait, je pense, pas su grand-chose de la captation par les nazis de Wagner. Je pense qu'elle n'en savait pas grand-chose. Mais je pense que c'était absolument viscéral. Elle ressentait quelque chose de trop puissant, de trop tripal, d'une certaine façon. Et elle avait cette musique qui lui faisait très peur. Elle était désolée un jour où, j'étais là, je me souviens, où un médecin de nos amis, on écoutait justement ce dernier mouvement de cette 9e, et ce médecin qui ne savait pas très bien, qu'il ne fallait pas dire certaines choses, s'est risqué à dire que comme c'est allemand, c'est toutes ces voix qui déferlent, cette... Et ma mère a été, ça l'a bouleversée totalement. Elle n'a plus jamais réécouté cette œuvre. Parce qu'on lui avait révélé que c'était en quelque sorte, en plus l'allemand, elle le parlait, puisque mon grand-père le parlait. Quelqu'un lui ayant révélé que c'était bien allemand, comme on disait à l'époque, cette exaltation, cette exaltation qui est dangereuse pour les peuples alentours, d'une certaine façon, et pour tout le monde. Du coup, elle n'a plus écouté. Mais elle continuait à chanter des leaders de Schumann, mais en français. Il y a eu ce conflit qui était très important pour elle. Très important. Chez mon grand-père, c'était la poésie allemande, Schiller, etc., qu'il aimait beaucoup. Il connaissait les pièces de Schiller par cœur, par exemple. En allemand, bien sûr. Et pour ma mère, c'était dans la musique.
De Pierre Guillotin, Petrushka de Stravinsky, Cleveland Orchestra, direction Pierre Boulez. Suite opus 19 de Schomberg, au piano Sandrine Constantin. Un extrait de Progéniture de Pierre Guillotin, lecture de l'auteur le 5 janvier 2000 pour la réouverture du centre Georges Pompidou.